En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il dit : En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais quiconque se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Asseyez-vous quelques instants. Nous célébrons aujourd'hui, vous l'aurez compris, la solennité de la bienheureuse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France. Alors je sais que nous sommes encore assez éloignés de sa fête qui aura lieu lundi en 8, mais l'Église nous demande de célébrer cette fête, le premier dimanche disponible avant cette fête. Ça aurait dû être dimanche prochain, mais dimanche prochain nous solenniserons la fête du Très-Saint-Rosaire qui prime évidemment sur la petite Thérèse. Une petite annonce, d'abord, vous savez peut-être que M. l'abbé Paul Aulagnier va fêter ses 40 ans de sacerdoce. Il a été ordonné le 17 octobre 1971 par Mgr Marcel Lefebvre, et il fête ce jubilé en célébrant une fête samedi 29 octobre à 11h30 en la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, tout simplement. Monsieur l'abbé Philippe Laguéry prononcera l'homélie et toute belle cérémonie sera suivie des agapes d'usage, bien sûr. Vous trouverez au fond de la chapelle quelques petits faire-part, pas à me demander davantage de détails si vous en avez besoin. C'est important de pouvoir être là parce que d'abord, ça fera plaisir à l'abbé Aulagnier, parce que c'est une figure emblématique de tout membre traditionnel de l'Église. C'est le premier prêtre ordonné, vous le savez, par Mgr Lefebvre. Voilà, et ces hommes qui ont tenu bon. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans les années qui ont précédé la proclamation du doctorat de la petite Thérèse, des voix se sont élevées pour accuser les élateurs, et notamment le premier d'entre eux à l'époque, le pape Jean-Paul II, d'en faire trop. Que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus soit une grande sainte, tout le monde en convenait, mais de là à la faire entrer cette petite sainte morte à 24 ans, pensez-vous, cette petite sainte crottée de Normandie, de là à la faire entrer dans le collège prestigieux des docteurs de l'Église, il y avait un pas, et un pas qu'il ne convenait pas de franchir. Contre ce doctorat, on a argué de plusieurs faits, notamment du fait que seule une personne qui avait apporté des lumières en théologie dans toutes les branches de la théologie, ou au moins dans la majeure partie d'entre elles, pouvait accéder au titre de docteur de l'Église. En gros, pour être docteur de l'Église, il fallait être un généraliste, et un généraliste éminent, ce qui, nous disait-on, manquait à la petite Thérèse. Sans doute, les tenants de cette thèse n'étaient pas totalement objectifs dans leur jugement. D'abord, ils avaient été déroutés, et on peut le comprendre, par le ton un peu parfois fleur bleue de la petite Thérèse dans ses écrits. Sans doute, le jeune âge de Sainte Thérèse les avait-il aussi poussés à considérer que sa pensée n'était pas encore arrivée à maturité, ce n'était pas celle d'autres docteurs de l'Église. Et puis, peut-être que, habitués par trop à la prose des grands docteurs de l'Église, ils trouvaient que Sainte Thérèse n'était pas assez ceci ou pas assez cela. Tantôt, elle n'était pas assez austère, comparée à Saint Jérôme, par exemple, ou à Saint Jean de la Croix. Tantôt, elle était trop enfantine, quand on la compare, c'est vrai, à sa maîtresse, la grande Thérèse, qui, elle, parlait à ses filles, en mère, mûre. Évidemment, la petite Thérèse a un style enfantin. Tantôt, on considérait que Sainte Thérèse n'était pas assez technique. C'est vrai que lorsqu'on compare ses écrits à ceux d'un saint Albert le Grand, d'un saint Bonaventure ou d'un saint Thomas d'Aquin, peut-être peut-on trouver que la petite Thérèse n'est pas assez la carrure. Les opposants au doctorat de Thérèse donc se sont laissés aller à croire que cette sainte manquait de style, qu'elle manquait de maturité ou qu'elle manquait de compétences théologiques. Bien, Jean-Paul II a fait fi de ces oppositions, le magistère de l'Église s'est prononcé, Rome a tranché, la cause est entendue, selon l'adage bien connu, on a déclaré la petite Thérèse docteur de l'Église. Mais parce que le magistère n'a pas l'habitude de se prononcer à la va-vite, surtout dans ces domaines, parce que ce n'est pas sur un coup de cœur, on peut trouver la petite Thérèse très mignonne, ce n'est pas sur un coup de cœur que le magistère se décide, il faut bien saisir ce qui a amené Jean-Paul II, et déjà les théologiens avant lui, à considérer que, comme Saint Pidis par exemple, il disait que Sainte Thérèse était la plus grande sainte des temps modernes. Saint Pidis, on ne peut pas taxer de laxisme en la matière. Donc ces grands papes ont décidé que la petite Thérèse méritait les honneurs du doctorat. Quelle est cette conduite, qu'est-ce qui, chez Sainte Thérèse, dans sa pensée, a poussé le magistère à considérer qu'elle avait droit au titre de docteur? C'est assez simple en réalité. La petite Thérèse, c'est vrai, n'est pas docteur parce qu'elle aurait élaboré une synthèse théologique puissante couvrant tous les domaines de la maîtresse des sciences qui est la théologie, pas du tout. Mais parce qu'avec un génie tout particulier, elle a su mettre en évidence le cœur même de l'Évangile. Elle a su mettre en évidence ce qui était, dans ce qu'elle qualifie elle-même, la petite voie, la conduite qui est la conduite éminente dictée par Jésus. Je vous cite un extrait simplement de l'homélie de Jean-Paul II, lorsqu'il est venu en pèlerinage à Lisieux, c'était le premier pape pèlerin à Lisieux, il est venu rendre hommage à Sainte Thérèse, 20 ans avant son doctorat, mais ces lignes sont assez révélatrices. De Thérèse, dit-il, on peut dire avec conviction que l'Esprit de Dieu a permis à son cœur de révéler directement aux hommes de son temps le mystère fondamental, la réalité fondamentale de l'Évangile, le fait d'avoir reçu réellement un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». On reconnaît là les paroles de saint Paul. La petite voix de la sainte, c'est ce que dit Jean-Paul II, est la voix de la sainte enfance. Voilà pourquoi sainte Thérèse a le droit d'être docteur de l'Église, parce que, Jean-Paul II nous le dit, elle a découvert le mystère fondamental, la réalité fondamentale de l'Évangile, le fait que nous sommes enfants de Dieu et que nous devons nous comporter comme tels. Avec Thérèse de Lisieux, une fois de plus, la sagesse divine a pris à revers la mentalité du monde. C'est-à-dire qu'elle s'est servie de ce petit bout de femme pour faire comprendre aux hommes de son temps, aux sages, aux savants barbus de tout poil, quel était le plus important. Elle a mis puissamment en lumière, je vous le répète, le cœur de l'Évangile. Cœur de l'Évangile que nous autres chrétiens avions oublié. Et c'est tout à fait dans la ligne de l'action divine qui passe par les petits. Saint Jean-Baptiste prophétise dès le ventre de sa mère le jour de la visitation. Seigneur Jésus lui-même, à 12 ans, prêche au docteur, il prêche au prêtre, au temple, le jour du recouvrement. La toute jeune Marie de Nazareth devait enseigner autour d'elle d'une façon absolument sublime. Eh bien, sainte Thérèse, de la même manière, a délivré, en dépit de son jeune âge, un message qui devait secouer l'Église de son temps, c'est-à-dire dépoussiérer tout ce qui s'était accumulé et qui empêchait l'Église d'arriver au cœur de l'Évangile. C'est très troublant de constater que, finalement, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son enseignement, sans prétention, se conforme, mais parfaitement, sans peut-être même qu'elle le sache explicitement, ce que je vais dire, elle se conforme parfaitement à l'un des versets du Veni Sancte Spiritus. Elle montre par là qu'elle est totalement docile à l'Esprit Saint, et qu'elle est mue par l'Esprit Saint. Vous trouvez ce verset au Veni Sancte Spiritus, flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium. Assouplissez ce qui est rigide, réchauffez ce qui est froid et redressez ce qui dévie. À rebousse-poil d'une église qui était partiellement contaminée, vous le savez, à la fin du XIXe siècle, hein, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, 1873-1897. Dernière partie du XIXe, eh bien, en son temps, l'église était contaminée par les erreurs même qu'elle entendait combattre. Parce que, voilà, les chrétiens sont des hommes de leur temps et qu'ils sont contaminés très souvent. Point par point, Sainte Thérèse s'oppose à trois défauts. Jusque dans l'Église, en matière d'autorité, on exerçait cette autorité avec quelque excès. On peut bien le comprendre parce que l'Église sortait de la Révolution française, elle sortait d'autres révolutions de turpitudes multiples et son magistère était remis en cause en permanence par la critique rationaliste, par d'autres, et jusque dans son cœur même. Alors, on a fait acte d'autorité et parfois de façon peut-être excessive, faisant à croire que Dieu était lui-même un juge et peut-être quelqu'un d'un peu trop dur. Alors sainte Thérèse, avec ses petites mains de jeune femme, s'est mise à écrire des choses magnifiques sur ce Dieu Père, sur ce Dieu qui exerce l'autorité d'une façon absolument douce. Et sainte Thérèse avait, vous savez, l'exemple d'un Père parfait, si j'ose dire, il est bien heureux, donc l'Église en a attesté. Elle a donc contrecarré l'Église de son temps, c'est-à-dire les excès dans l'Église de son temps, en rappelant que Dieu était Justice, oui, mais qu'il était un père, et un père accessible, un père doux. Elle s'est opposée également à la crispation, à la dureté, aux préjugés qui faisaient rage alors. Vous savez, cette morale bourgeoise fin 19e, dont l'Église était partiellement atteinte. Et oui, nous sommes des hommes de notre temps, et nous baignons en permanence dans un climat particulier. À l'époque, c'était le climat bourgeois, avec cette dureté, cette espèce de jugement a priori sur tout. Et à l'inverse de cette tendance, sainte Thérèse se fait l'avocate de la chaleur de l'amour divin. Vous savez, cette dévotion profonde à l'enfant Jésus, sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Elle a voulu montrer que Dieu était aussi doux, que Dieu était aussi peu crispé que l'était un enfant. Jésus s'est incarné, Dieu s'est incarné, disait-elle, il est devenu un petit enfant, notamment pour nous apprendre combien il était doux, combien il était simple et combien il ne fallait pas se crisper à son égard. Au sein de l'Église, troisième point, hein, parce que ces deux premiers points, peut-être aurez-vous reconnu derrière eux, ces invocations du Saint-Esprit dans le Veni Sancte Spiritus, assouplissaient ce qui est rigide quant à l'autorité, en montrant un Dieu Père. Deuxième demande, réchauffer ce qui est froid contre les préjugés, contre l'espèce de savoir-vivre, soi-disant bourgeois, fin 19e, Sainte Thérèse rappelle combien Dieu est doux, parce que Dieu est enfant. Il est accessible comme cela. Troisième point sur lequel elle contrecarre certains excès de l'Église de son temps, elle est, passe à une Église qui est soucieuse de répondre à une remise en cause rationaliste. Certains, jusque dans les rangs même de l'Église, vous le savez, c'est le modernisme. Le modernisme est en genèse dès l'époque de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On attaque l'Église quant à l'historicité des évangiles. On attaque l'Église quant à l'existence du surnaturel, des miracles, quant à la double identité de Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu. Alors l'Église, par contre-coup, pour lutter contre cette erreur, devient parfois trop tranchante, peut-être un petit peu trop réductrice dans un certain nombre de ses thèses. Je ne parle pas du magistère qui est toujours sauf, absolument assisté par l'Esprit Saint. Je parle des thèses qui avaient cours dans l'Église et de la pratique concrète jusque dans les homélies, parce que c'est ce qui touchait les fidèles. Que fait sainte Thérèse? Elle rappelle que le surnaturel existe, que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu, mais qu'en même temps, il ne faut pas avoir de jugement catégorique, une volonté de systématiser Dieu et de le mettre dans des petites boîtes néo-scolastiques. Sainte Thérèse, en gros, apporte le souffle du Saint-Esprit, un souffle qui va bien au-delà de tous les petits concepts humains qui nous permettent d'approcher Dieu, quoi qu'il soit nécessaire. Là, vous aurez peut-être reconnu cette injonction à l'Esprit Saint, redresser ce qui est dévié. Voilà que sainte Thérèse, donc, est parfaitement docile au Saint-Esprit et qu'elle vient en temps opportun pour apporter le souffle du Saint-Esprit pour dépoussiérer ce qui devait l'être dans l'Église de son temps. Cette petite voix de l'enfance qui a été tant louée par Jésus, hein, nous l'avons lu dans l'Évangile, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Si vous ne devenez semblable à un petit-enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Cette petite voix, donc, d'une relation simple, directe, cordiale avec Dieu, d'un Dieu qui est tout proche depuis qu'il s'est incarné, d'un abandon total à celui dont nous n'avons rien à craindre à partir du moment où nous voulons bien coopérer, bien sûr. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le résume en une phrase, il faut jour après jour se livrer à l'amour. Nous aurions tort de considérer que ces mots qui affectaient l'Église d'alors ne sont plus d'actualité. Nous avons, nous aussi, une difficulté à exercer l'autorité. Nous avons une difficulté à concevoir de façon équilibrée notre Dieu. Parfois, nous jugeons trop dur, trop rude. Parfois, nous en faisons un copain, ce qui est moins le risque dans ce genre de chapelle. Eh bien, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus vient nous apprendre à rééquilibrer notre vision de Dieu. Elle vient nous apprendre tout simplement à fuir l'idolâtrie. Nous sommes des idolâtres. Parce que nous nous faisons, et c'est normal, c'est une tentation de notre intelligence et de notre cœur, nous nous faisons une idée de Dieu à notre mesure. Sainte Thérèse nous dit, mais laissez-vous donc façonner par le Saint-Esprit, enseigner par le Saint-Esprit. Et vous découvrirez un Dieu qui est doux, un Dieu qui est Père, et un Dieu avec lequel vous n'avez pas à avoir peur. Alors, il ne faudrait pas non plus tomber par une mauvaise lecture de Sainte Thérèse, je l'ai entendu très souvent, ou par pas de lecture du tout de Sainte Thérèse, mais simplement quelques mots glanés de droite et de gauche dans ses écrits, que la petite voix, c'est finalement un retour au quiétisme. C'est-à-dire qu'on se laisse faire, on est parfaitement passif, on est un petit bébé dans les bras de son père, je l'ai déjà entendu ça, sincèrement, Et que finalement, il n'y a rien à faire, parce que Papy Gâteau est là qui veille, et que à la fin de notre vie, tout ira bien, quoi que nous fassions. Ce serait mal comprendre la pensée de Sainte Thérèse. Si vous avez déjà ouvert ces manuscrits autobiographiques, si vous avez déjà ouvert ces ultima verbi, c'est-à-dire ces dernières paroles, vous ne pourrez pas tenir cette thèse très longtemps. Qu'est-ce qu'on découvre au contraire dans la théologie de la petite Thérèse ? Un zèle dévorant pour l'action. Sainte Thérèse, c'est celle qui se livre à l'action de l'Esprit Saint, oui, mais c'est également celle qui est avide d'action. Peut-être est-ce que vous aurez lu ces pages absolument admirables, elles sont vraiment très belles, parce que vraiment du Saint-Esprit, où Sainte Thérèse relate les aspirations multiples qui animent son âme. Elle veut être tout à la fois missionnaire, elle veut être tout à la fois croisée, zouave pontificale, martyr, docteur, prêtre, et j'en passe. Bref, elle aspire à l'action pour l'amour de Dieu. Il n'y a pas du tout de place, vous voyez, pour le quiétisme, pas du tout de place pour la passivité totale. Sainte Thérèse est, d'une certaine manière, une suractive. Elle n'est pas du tout la mystico-gélatineuse qu'on nous répand régulièrement ou que l'on pourrait percevoir dans quelques statues un peu sulpiciennes. Pas du tout, c'est la femme forte de l'Écriture qui est levée avant tout le monde, passe sa journée à agir. Mais notez que Sainte Thérèse ne tombe pas non plus dans l'activisme. Qu'elle est tout à fait consciente de la vanité, de la vacuité de ses forces naturelles. Elle ne compte absolument pas sur sa petite personne. Elle nous dit que si elle n'était pas entrée dans les ordres, sans doute se serait-elle damnée, parce qu'elle se savait sensible à l'extrême et sensuelle même. Vous voyez donc qu'elle n'est absolument pas sûre d'elle et qu'elle préfère s'en remettre totalement à Dieu en entrant au couvent notamment. Ce n'est pas le seul motif, bien sûr, mais c'est un motif qu'elle évoque. Elle comprend que Dieu n'attend pas d'elle qu'elle sombre dans l'activisme, en étant tout à la fois missionnaire, martyr et que sais-je, mais que derrière tout cela, Dieu lui demande une seule chose, qu'elle anime chacun de ses actes de l'amour divin. Et elle ramasse une épingle par terre et elle explique que c'est qu'elle roule pour un missionnaire. Elle accepte de toutes petites choses qui, au début, la révoltent parce que c'est une petite fille très sensible. Au lavoir de son couvent, il se trouve qu'une des vieilles religieuses qui était là ne faisait pas trop attention et régulièrement lui jetait de l'eau en retournant le linge. Sainte Thérèse ne supportait pas cela. Un détail, me direz-vous, mais dans le contexte du Carmel et de son numerus clausus, c'est-à-dire d'un nombre très restreint de religieuses, on peut comprendre que, rapidement, on ait envie de frapper sa consœur. Alors, Sainte Thérèse était dans ses dispositions, et elle a compris que le Saint-Esprit lui demandait d'être docile à cela, de se servir de l'acceptation de ces petites gouttes d'eau, ce n'est rien, pour sanctifier les âmes, pour convertir le monde, et pour que les missionnaires à l'autre bout de la planète, avec qui elle correspondait, puissent œuvrer avec efficacité. Vous voyez que c'est vraiment très simple, et qu'on ne vire pas là à l'activisme absolu, mais qu'il s'agit à chaque instant, en réalité, d'accepter de laisser nos actes se faire pénétrer par l'amour divin. C'est tout l'enjeu de notre religion, et cette doctrine de Sainte Thérèse doit à la fois, je crois, nous exciter, nous encourager, nous stimuler, et en même temps nous apaiser. Nous stimuler parce que nous voyons que chaque heure du jour qui n'est pas placée sous le regard de Dieu, chaque acte qui n'est pas placé sous la mouvance du Saint-Esprit, délibérément, est un acte perdu, est une heure perdue. Sainte Thérèse en avait conscience, comme tous les saints, qui cherchaient à chaque instant à racheter le temps, si j'ose dire, à laisser pénétrer chaque action par l'amour divin. C'est ce que nous devons faire. Et en même temps, cette doctrine doit nous apaiser. Parce que si à chaque instant nous pouvons nous livrer à l'amour, si nous ne l'avons pas fait pendant une demi-journée, il nous reste encore toutes les minutes de la demi-journée restante. Vous voyez qu'il n'est jamais trop tard pour se convertir et confier à Dieu nos petits actes. Ça, c'est très réconfortant. Je termine en évoquant une autre chose qui est très réconfortante. Je veux parler du regard de Sainte Thérèse sur la vocation. Vous voyez que Sainte Thérèse avait la ferme volonté de répondre à toutes sortes de vocations. Et puis elle s'est rendue compte que tout cela était un peu complexe, que finalement c'était très humain, et que le Saint-Esprit lui demandait, enfin le Père lui demandait simplement de répondre à sa vocation de carmélite et à sa vocation qui était l'amour, de pénétrer chaque acte, comme je viens de vous le dire, de l'amour divin. Nous avons très souvent des problèmes avec la vocation. Je ne parle pas seulement aux jeunes qui sont ici, qui pourraient avoir peur de répondre à l'appel de Dieu par la vie consacrée, ou peur de s'engager dans les liens du mariage chrétien. Nous avons des problèmes. Nous cherchons, mais en nous triturant le cerveau, à savoir ce que Dieu veut de nous. Alors il nous arrive de chercher de droite et de gauche, de se tromper, qu'importe. Sainte Thérèse semble nous répondre, ne t'affole pas. Ce que Dieu veut, c'est que tu répondes à son amour sur toi. C'est tout. Et que tes actes soient faits l'effet d'amour. Dans le cœur de l'Église, ta mère, soit l'amour. Et après, qu'importe. Parfois, les personnes viennent me voir en me disant qu'elles ont loupé leur vocation. Je ne comprends pas très bien ce qu'elles veulent me dire. Je crois que... Enfin, je comprends, mais à la fois, je pense qu'on peut dépasser cela. Je me suis trompé. Je me suis marié alors que je n'aurais pas dû. Je suis entré dans tel couvent alors que je n'aurais pas dû. Je suis séminariste, mais en fait... Oui, ce que demande Dieu par-dessus ces moyens, ce ne sont que des moyens, je vous l'avais dit la dernière fois, ce ne sont que des moyens. Les vocations ne sont que des moyens et pas des fins. Ce que Dieu veut, et ce qui le rendra pleinement heureux, c'est qu'à chaque instant de votre existence, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, hic et nunc, vous lui répondiez. C'est ça qui permettra que vous plaisiez au cœur de Dieu et que vous fassiez votre salut. Voilà. En conclusion, je crois que Sainte Thérèse, enfin je crois, je sais, et nous savons, l'Église entière, que Sainte Thérèse, en vivant de cette petite voie toute simple et toute modeste, a atteint au plus haut degré de sainteté. Il faut cesser de se dire que ces plus hauts degrés de sainteté sont pour les autres. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus nous est donnée comme modèle. Elle est donnée comme modèle aux missionnaires, elle est donnée comme modèle aux jeunes, elle est donnée comme modèle aux novices. Mais elle est donnée comme modèle, puisqu'elle est docteur de l'Église, à l'ensemble de l'Église catholique, c'est-à-dire à vous et à moi. Il faut cesser de se dire que la sainteté est une chose de spécialiste. Encore une fois, la petite voix de Sainte Thérèse est tout à fait adéquate pour simplifier tout cela. Elle nous dit « Simplifie-toi, abandonne-toi à ton Père en toute confiance, n'aie crainte, écoute-le, il te guidera à bon port, c'est-à-dire au degré de sainteté, et deuxièmement, cherche à mettre de l'amour en tout. » Et que ce message est très clair et très simple, il tient en deux points. Qui sait si Dieu ne veut pas susciter parmi nous, qui sommes ici rassemblés dans cette chapelle, un docteur de l'Église ou une docteur de l'Église. Quand sait-on? Je vous vois sourire, quelques-uns. Quand sait-on? Si ça se trouve, la petite Thérèse de Lisieux, du fin fond de la Normandie, ben, peut-être y aura-t-il une Thérèse de Tourment, ou d'autres encore. Voilà, je crois qu'avant de pouvoir dire avec Sainte Thérèse sur notre lit de mort, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Il faut prendre cette résolution aujourd'hui, je passerai ma terre à faire descendre le ciel sur terre. On peut demander ça à la petite Thérèse, elle nous a dit qu'elle passerait son ciel à faire du bien et à faire tomber des pluies de grâce. Eh bien, demandons-lui de pouvoir capter une partie de ces pluies de grâce aujourd'hui, demandons-lui cette fidélité au Saint-Esprit qui ne peut que nous mener à être des grands saints si nous sommes vraiment dociles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.